fait, j'avais plusieurs questions à vous poser. Donc, Cécile Fraisse, qui de la compagnie AMK, co-dirige, vous dirige seule. Et puis Pierre Tuval, qui est associé à plusieurs compagnies, mais je lui ai proposé de venir, notamment dans le cadre du travail qu'il mène avec la compagnie Susvex, autour des textes de Sylvain Levé, qui ont été mentionnés par Pierre Vanos. Donc j'avais pour fait plusieurs questions, c'est-à-dire à la fois, puisque vous faites des spectacles pour la jeunesse, voire la toute petite enfance, parler des endroits déjà où vous montrez ces spectacles. Je pense que vous n'êtes plus forcément obligé de les montrer en milieu scolaire aujourd'hui. Donc ça, enfin, voilà, quelles sont les évolutions déjà des lieux où vous montrez vos spectacles. Peut-être aussi se poser la question de pourquoi ces spectacles jeunesse. Est-ce qu'à un moment, enfin, quelle est la nécessité économique aussi, ou l'opportunité économique que ça peut représenter. Voilà, déjà ça pour lancer vos témoignages. Et puis,
c'est des interventions un peu improvisées qu'on a tous les deux. Donc par rapport à tout ce qu'on a entendu, moi j'ai un peu noté, je peux prendre le micro, mais bon, c'est pas... J'ai un peu noté des choses. Oui, par rapport au... Voilà, c'est vrai qu'au début, quand tu m'as contactée, c'était lié au mioche. C'est vrai qu'on a eu des...
Peut-être rappeler ce que c'est.
Oui, là, c'est une création qui a eu lieu en 2002. Hein. Voilà, complètement. C'est un peu particulier parce que c'était une toute jeune compagnie. Donc, on avait monté Madame Cano à la Renault. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, donc en 2000. Hein. Et donc, on venait avec Philippe vraiment du théâtre pour adultes. Voilà, avec vraiment aucune notion, très franchement, du théâtre jeune public. Hein. Et pour être très honnête, hein, on a fait un spectacle jeune public à la demande d'agents avec qui on travaillait. Voilà. Donc, c'était pour le coup une espèce de... Non, mais c'est vrai, hein, très franchement.
Et donc, ça existe,
mais tout à fait, enfin voilà, quoi, moi j'ai aucune honte, on nous a dit voilà, ça a bien marché, ça serait bien de faire un spectacle jeune public, d'avoir ça dans le répertoire, et c'est vraiment comme ça que ça s'est créé, parce que nous on n'avait pas de... Voilà, c'était pas forcément un projet, voilà. Et effectivement, on a cherché un peu une littérature... pour les enfants, et on avait, si on voulait monter, c'était un texte de Nathalie Papin qui finalement ne nous a pas donné les droits parce qu'elle est à l'âge ou à 9 ans, je sais pas quoi. Ça a été un peu compliqué, Philippe avait très envie d'écrire, et donc du coup ensemble on a structuré un spectacle, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment bossé sur les scènes ensemble, etc. Commencé à faire des marionnettes, donc il y a un texte qui est né, on l'a testé sur le plateau, on a refait des coupures, enfin c'était vraiment une collaboration quoi. Et c'est comme ça que le mioche est né par un... Voilà. Mais c'est vrai qu'au début... Alors ce qui est assez intéressant, c'est que pour le coup, nous, il n'y a eu aucune autocensure. Parce qu'on n'avait pas du tout conscience des enjeux du jeune public, de comment les gens allaient réagir, ou même des codes de cette littérature ou de ce théâtre-là. Enfin, on avait vu quand même quelques spectacles. À l'époque, il y avait à la ferme du Buisson, ils avaient quand même il y avait Anne-Françoise Cabanis qui faisait une programmation où j'avais quand même vu 5-6 spectacles. Mais c'est tout, quoi. J'avais vraiment vu très très peu de choses. Donc c'est vrai que, en tout cas, voilà, pour moi ça me paraît vieux tout ça, mais... Quand on a créé le mioche, on s'est trouvé quand même confronté à plein de drapeaux levés, que c'était pas pour les enfants, que c'était violent, c'était sur les enfants soldats. Voilà. Donc, on avait envie d'imaginer quel pouvait être, je dirais, l'espace poétique d'un enfant qui se retrouve confronté à ce statut-là, de voir faire la guerre. Hein. Donc, qu'est-ce qui développe ? Alors, c'est vrai que c'était toute l'époque aussi de la résilience, de Cyrulnik, donc on était aussi inspiré de ça. Et c'est quoi, sur quoi il va... Sur, sur quel espace poétique personnel il va s'appuyer hein, pour rebondir ou pour traverser tout ça dans une certaine innocence en quelque sorte. C'était vraiment l'état d'esprit dans lequel on était. Donc voilà. Alors c'est vrai que oui, il y a eu pas mal de... On a vraiment beaucoup appris en faisant ce spectacle sur c'est quoi aussi les attentes du milieu et puis aussi des personnes qui étaient très, très contentes et très enjouées qu'on propose ça. Mais il y avait beaucoup d'inexpérience. Hein. C'est ce qui a aussi permis cette liberté, qu'on ne se rendait pas vraiment compte hein, de ce qu'on faisait.
L'autocensure n'était pas encore...
Pas du tout. Pas du tout, du tout. Hein. Ouais, pas du tout, du tout. Alors, c'est vrai que... je sais pas si je parle des autres, parce qu'il y a eu en fait tout un... Je vais peut-être pas prendre non plus complètement la parole, parce qu'après il y a eu tout un parcours, il y a aussi une réflexion qui a mûri. Hein. Donc c'est vrai que... Alors par rapport à tout ce que j'entendais, la notion de responsabilité, bon, au demeurant, le mieux, je crois que ça a choqué aucun enfant, hein. C'était plus... parce que déjà, on ne jouait pas à partir de 10 ans, c'était pas non plus pour des tout-petits, enfin... Et puis il n'y avait pas véritablement de scène violente, c'était quand même remis dans toute une mise en scène, où tout tournait pas autour d'une apologie, on ne pouvait pas non plus y échapper. Alors c'est vrai, quand j'entendais tout à l'heure... Enfin, voilà, après je ferai un petit peu où la compagnie elle en est maintenant, mais moi les réflexions, j'en suis comme ça finalement quasiment 10 ans après, où en définitive on a continué dans le jeune public parce que maintenant vraiment par goût, et c'est même pas des trucs économiques que ça tourne et tout, c'est que vraiment, enfin, moi ça m'intéresse vraiment. Finalement, à travers le mioche, par un accident ou une opportunité, donc ça c'était vraiment ça. Moi j'ai découvert justement un public qui était assez authentique, assez sauvage, et qui est assez. Enfin, que moi j'ai trouvé stimulant, enfin voilà. Alors les histoires, c'est. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Hein.
Non, parce que ça me refait penser, je faisais une petite incise, mais parce que ouais. On s'était vu avec Alain, il m'expliquait dans les années 50, une des qualités exigées, c'était la discipline des enfants dans le spectacle. C'est pour ça que j'y pensais.
Tout à fait. Alors moi, c'est vrai que quand tu parlais là, dans les bibliothèques et tout, ouais, en tant qu'artiste, effectivement, mais on a des responsabilités, on n'a pas toutes les responsabilités. C'est-à-dire que, comme tu disais, la lâcheté, la paresse, la cruauté, la violence, bon, c'est peut-être un peu ras et pas crête ce que je dis, mais ça existe dans le monde, ça existe à l'intérieur de nous. Alors, en tant qu'artiste, cette espèce de censure de l'éradiquer ou de pas l'aborder, le problème n'est pas là. Je pense que c'est important. Je pense que justement, qu'il y ait l'espace pour exprimer ça, hein, dans la sphère artistique, c'est justement important. Je pense que c'est plus le problème, c'est plus d'apprendre à vivre avec tout ça. Hein. Que de l'étouffer. Donc moi, ma responsabilité, enfin voilà, c'est, je pense que c'est des notions, des thèmes, mais bon, enfin, en même temps, ce que je dis, tout le monde est d'accord, c'est des notions, des thèmes, c'est vraiment important que ce soit dans les pièces de théâtre, dans les films, parce que justement, c'est une façon aussi, pour les enfants, de s'y côtoyer, ou même de lâcher aussi des pulsions. Je pense que le...
La marionnette permet...
Ça crée une distanciation qui est évidente, hein, qui est beaucoup plus... Il y a une distanciation avec la marionnette qui permet, moi, je pense, d'aborder ces thèmes-là de façon, entre guillemets, moins dangereuse par rapport à des identifications. Mais je pense qu'un enfant qui plonge dans ce genre d'identification, le problème, c'est pas le spectacle ou le film, hein. C'est que ça fait écho à d'autres problèmes. Mais après, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on ne peut pas ne pas prendre en considération cette donnée-là. Effectivement, il y a des enfants qui peuvent être dans de la confusion entre une forme artistique, que ce soit à la télé ou sur scène, et puis ce qu'ils vivent. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le problème, il est ailleurs. Il n'est pas sur le plateau, quoi.
Et peut-être Pierre, si tu veux, peut-être...
Oui, donc... Comme tu disais, moi je suis avec une casquette de la compagnie Vivex dont je fais partie, qui n'est pas du tout une compagnie en fait qui travaille sur le jeune public, en tout cas pas du tout spécifiquement. Donc par rapport à ces questions d'autocensure et tout ça, moi je me range un peu aussi du côté de Cécile quand on n'a pas conscience en fait. Ça nous est arrivé de jouer certains de nos spectacles devant des classes entières d'enfants, on ne l'avait pas prévu et donc du coup. Dans la création même, on ne s'était pas posé de question de est-ce que c'est adapté ou pas au public qu'on a en face de nous. Et le spectacle sur lequel on travaille en ce moment, c'est pareil, je vais apprendre à mes camarades qu'on fait du jeune public parce qu'elles ne sont pas au courant encore. Par contre, il se trouve qu'on travaille en effet avec Sylvain Levet, qui est auteur associé à la compagnie depuis les débuts de la compagnie, et donc qui est un auteur publié chez Théâtral Jeunesse depuis un paquet d'années maintenant. 2004. Et là, on travaille en ce moment sur son dernier texte, enfin, pas son dernier texte, n'importe quoi. Un texte récent qui s'appelle Sans culotte et sans papier, qui nous a, entre guillemets, commandé de mettre en scène. C'est-à-dire que c'est lui qui nous a proposé de travailler dessus. Et par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est pour ça aussi que tu m'as proposé de prendre la parole. On réalise au fur et à mesure. Du travail que ça pose certains soucis qu'on n'avait pas du tout anticipé pour parler très très vite du texte et peut-être un peu mal parce que je suis pas très bon pour parler de ce genre de choses. C'est donc un texte qui aborde, alors a priori comme ça, on qui aborde pas des thématiques, en tout cas à première vue, qui pourraient provoquer censure de la part des adultes. Ça parle de l'école, donc a priori, au contraire, ça intéresse vachement les pédagogues, les inspections académiques et tout ça. La mise en abîme de l'école, tout ça, les jeux d'enfance, l'école à travers les âges, c'est très intéressant à développer en classe, en plus après comme sujet. C'est vraiment, comment dire, c'est un des retours qu'on a au début sur ce texte. Après, le postulat un peu, enfin la question que pose Sylvain à travers ce texte, c'est... En tout cas, la question que nous, on en a dégagée, c'est... il met le postulat de départ qu'en France, on a une espèce de mythologie autour de l'école qui serait un endroit où la société se constituerait avec des valeurs communes pour les citoyens en devenir. Et il pose la question, en tricotant son texte, de... D'abord, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité depuis à peu près au cours du XXe siècle? Et puis aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de ce mythe-là? Et est-ce que c'est toujours l'école est toujours un endroit où on peut donner aux enfants des valeurs communes? Et alors, qu'est-ce que c'est que des valeurs? Qu'est-ce qui est moral ou pas moral? Enfin, voilà, plein de questions. Et donc, c'est un texte qui finalement est très politique, sans en avoir l'air, mais ce qui est un peu une des pistes de jeu de Sylvain Levet. Donc à travers ce texte, il aborde des questions qui sont finales. Alors vraiment, de premier abord, on les voit. Enfin, en tout cas, moi, en tant que lecteur, je ne les avais pas forcément vues. C'est en travaillant qu'on les découvre et qu'on se rend compte qu'elles sont extrêmement évidentes, en fait, dans le texte. Ces questions comme... il y a beaucoup, toujours les questions de violence, violence sociétale, de la place de l'enfant par rapport à des comportements violents, souvent des adultes. Dans Sans culotte sans papier, il y a vraiment des scènes. Sylvain aime bien mettre en scène la violence de manière très franche. Donc il y a des scènes de table de multiplication qui sont apprises à coups de gifle, c'est presque une scène de torture en fait. Il y a une histoire homosexuelle entre deux enfants que vraiment il faut mettre du temps pour réussir à la comprendre. Nous on a mis extrêmement de temps à la comprendre et c'est avec Sylvain qu'on a fini par comprendre qu'en effet c'était ça qu'il racontait. Une histoire très anecdotique, deux enfants qui gravent sur un arbre M plus E égale amour éternel, et en fait, il n'y a pas les prénoms, mais en fait c'est deux garçons, et ils se font attraper par la maîtresse qui les punit parce qu'ils ont cicatrise, enfin ils ont abîmé l'arbre, mais en fait aussi elle est punie parce que c'est deux garçons. Donc voilà. Et puis aussi il y a des thématiques politiques, puisque ça parle, il fait un parallèle très clair entre. Enfin, il parle de la position de l'école aujourd'hui par rapport au. Par rapport à la délation des enfants sans papier, et il fait des parallèles un peu volontairement douteux, enfin moi je voilà, par rapport à ce qui a pu se passer notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, par rapport à la déportation. Donc voilà, ça brasse toutes ces questions-là. Et donc nous, on est en train de découvrir toutes ces questions-là. C'est pas un texte qu'on met en scène pour le jeune public, ce sera un public à partir de 8 ans. Alors la question des tranches d'âge aussi, on nous demande, alors on essaie de trouver des réponses, mais nous, on n'a pas vraiment prévu. Mais il se trouve que là, les dates qu'on a en prévision de ce spectacle qu'on va créer cet automne, c'est beaucoup des dates avec du jeune public. Alors, ben, voilà, on est content, on va pouvoir jouer notre spectacle et puis on va l'expérimenter face à des enfants. Voilà. Et on a eu, en effet, alors pour parler de censure, on a eu une petite anecdote qui pour moi était une anecdote, mais vu les réactions, quand j'en parle autour de moi, je me rends compte que c'est peut-être un peu plus qu'une petite anecdote. C'est, on avait un projet sur ce texte, avec, on a eu beaucoup de projets avec les écoles, parce que comme je disais, ça intéresse vraiment les pédagogues et tout ça. Et nous, on arrive un peu naïvement. Donc c'est un texte qui est joué avec acteurs et marionnettes. Pour l'instant, c'est pas très réfléchi pourquoi il y a des marionnettes. C'est, moi, j'ai ramené ça dans la compagnie, dans le travail de la compagnie, parce que c'est mon outil de théâtre principal. Donc je veux dire, c'est pas... C'est, voilà, on cherche une place avec la marionnette dans ce texte-là, et on en trouve. Donc forcément, on arrive avec ce texte, avec les marionnettes, donc les instits sont souvent très contents, ce que je comprends, hein, enfin, c'est normal, c'est des thématiques intéressantes, des médiums intéressants avec les enfants, et on a monté un projet de... Donc on a beaucoup de projets en parallèle de la création avec des enfants, et on a monté un projet de classe culturelle avec le Théâtre de la Marionnette à Paris cette année. Donc il y avait deux classes qui étaient concernées, c'était un très beau projet avec une visite du musée de l'éducation, avec une conférence, puis des ateliers avec Sylvain Levet, puis des ateliers avec deux... moi et une autre marionnettiste, et donc c'était des projets assez conséquents, et donc il y a un projet qui s'est arrêté net au tout début en fait, enfin ça a commencé, et puis l'enseignant concerné a reçu le texte, et là alors est-ce que c'est de la censure ou pas, mais ce qui s'est passé très concrètement, c'est qu'il a fait un ramdam incroyable. Il a alerté la direction de la vie scolaire de Paris, il a alerté l'inspection académique, il a envoyé moult mails à tous ceux qui pouvaient, à la directrice du théâtre de la Marionnette, etc. Alors qu'à la base, il avait rencontré Sylvain Levet, qu'il avait trouvé formidable, très intéressant et tout. Puis il a reçu le texte, puis il a lu le texte, puis il a fait un... Alors il, voilà, il a tout. Clairement, c'était un texte qui pour lui était un texte de gauchiste, et que donc du coup, l'école dans laquelle il intervenait, le public qu'il avait, est-ce qu'il avait la frousse des parents?
Je pense pas, il y a la question de la peur à travers la censure. Il y a beaucoup de peur, hein, qui génère même une autocensure de la... Excuse-moi, je te coupe, hein, mais qui génère une autocensure même de la part des enseignants. Et il suffit qu'il y ait une autre personne au-dessus qui dise « Ah ben non, en fait, hop, ça repasse. » Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé.
Là, ce qui était très étrange, c'est qu'il était enfin... Ce qui était très très étrange comme cas de figure, c'est que c'était sa dernière année. Il allait terminer... Ouais. Il était à la retraite au mois de juin, donc on s'est vraiment posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça. Et il y avait sans doute quand même quelque chose d'idéologique derrière tout ça, et donc voilà, le projet a été rejeté complètement. Heureusement, l'autre enseignant, on a eu peur qu'elle soit embarquée dans le... parce qu'elle a reçu les messages, elle s'est inquiétée. Et puis elle a maintenu le projet, parce que voilà, le projet l'intéressait. Le projet qui s'est d'ailleurs très bien passé avec cette autre classe. Du coup, toute une classe a été privée de ce projet-là, qui était financé en plus, qui était mis en route. Donc, heureusement, il y a eu des barrières très vite, c'est-à-dire que l'inspection académique, la direction de la vie scolaire, le Sédermint à Paris, tout le monde a rejeté cette réaction, mais rien n'a été fait, le projet n'a pas eu lieu. Après, il y a eu quand même des personnes placées au bon endroit pour condamner ce comportement. Mais une fois de plus, voilà, ça revient sur ce qu'on disait, c'est les adultes, pas les enfants qui ont peur de...
Voilà. J'ai pas l'heure en fait sur moi, je voulais voir. Emmanuel, est-ce qu'il y a un micro dans la...
Non. Et je voulais juste dire une toute petite chose aussi par rapport à ce que j'ai entendu, et parce que la question c'est aussi par rapport à la marionnette, enfin c'est une des questions. Et nous ce qu'on se rend compte avec ce projet, enfin ce qu'on réalise avec ce projet que je trouve intéressant, c'est que...
Il y a cette histoire de
distance, bien sûr, avec la marionnette, tout ça. Bon, moi, je suis pas très non plus calé sur ces questions-là. Je réalise pas trop, en fait, ce que ça veut dire et des histoires psychanalytiques et tout, je suis pas très calé. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que ce qui est intéressant avec la marionnette, c'est que j'ai l'impression qu'on arrive à duper les adultes, mais pas les enfants. Et ça, je trouve ça intéressant, notamment les enseignants, les parents. Voilà, ben, j'utilise le mot duper, c'est-à-dire qu'on leur ment pas, ils sont pas bêtes, hein, mais il y a une espèce d'apparence comme ça que ça passera mieux avec la marionnette, que ce sera plus léger, que ce sera plus... Là, par exemple, dans le texte En culotte et sans papier, on joue avec la marionnette qui se prend des baffes incroyables. Ces deux petits garçons en marionnette qui tombent amoureux l'un de l'autre, c'est ce qu'on a expérimenté là, et notamment avec les enfants qui jouaient avec ces marionnettes. Et alors, tout d'un coup, c'est intéressant parce que ça devient mignon, ça devient joli, ça passe, alors que pas du tout, absolument pas, et pas du tout pour les enfants, et pour nous non plus. Du coup, la marionnette, je la trouve intéressante pour ça.
Et ça rejoint ce que rappelait Raphaël, à savoir effectivement le fait en fait que comme on a un a priori sur la marionnette, c'est un théâtre en réduction qui ne va pas avoir d'effet important finalement, on peut tolérer plus de choses en disant bon, ça n'aura pas, ça sera moins violent que si c'était fait avec des acteurs de chair et d'os. Alors qu'effectivement, la violence symbolique est celle qu'il s'agit de faire passer, en tout cas elle est aussi effective en voyant une marionnette se faire frapper. Surtout pour des enfants, en plus, ou là.
Vitesse, c'est quelque chose de très intéressant. Antoine Vitesse disait,
on ne pourrait pas supporter qu'un comédien arrache les ailes d'un papillon sur scène. Mais avec les marionnettes, on peut les décapiter, de toute manière, elles renaissent toujours, et ça n'a pas d'importance. Voilà.
Oui, c'était par rapport... je passe. Si, c'était un petit peu par rapport... Je pensais à de l'intérieur. On parle des histoires de... Comment dire? Les histoires de violence, mais il y a parfois aussi des sensations qui peuvent générer des censures. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, tout ce qui était lié à l'organique. Voilà, c'est quelque chose qui faisait écho chez certaines personnes à beaucoup de tabous, notamment plus chez les adultes. Hein. Voilà. Donc, il y a eu deux créations comme ça où on a eu beaucoup de l'intérieur, comme c'était même à l'intérieur du ventre, où il y a même une personne qui finalement après nous a programmé, qui avait vu le spectacle au début, il m'a dit, mais peut-être l'accouchement, on pourrait peut-être le faire de profil, qu'on ne voit pas, parce qu'on y avait été un peu, comme c'est un espèce de sac en tissu, vu qu'une sorte de... Enfin, il y avait quelque chose d'assez burlesque, hein, qui ne nous semblait pas vulgaire, hein, et qui avait fait peur. Hein. Donc mais on n'a pas mis de côté. Hein. On a tenu à ce que ce soit frontal. Et puis finalement, c'est un spectacle qui a vraiment eu sa vie comme ça. Mais on aurait pu se soumettre à toutes ces peurs et tout à coup mettre de côté puis édulcorer aussi le propos. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. On ne peut pas non plus soumettre à toutes les à tout ce qu'on nous dit parce qu'il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de peur. Alors, il suffit qu'il y ait d'autres personnes qui ensuite non. Enfin, après, c'est des systèmes d'influence. Hein. Mais je vois sur l'air qui était une espèce d'atmosphère toute organique, etc. C'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et tout le monde trouvait ça moche, hein, en fait. Hein. Tout ça, c'est moche. Mais je pense que ça. Peut-être que c'était moche, mais en fait, c'est pas tellement le propos, en définitive, l'esthétique. Je pense que ce que ça racontait.
C'est vrai que l'articulation, enfin, c'est aussi des vieux héritages. Je pense qu'on lira le témoignage de Giovanni Moretti plutôt en début d'après-midi parce qu'on a déjà entendu beaucoup de choses. Mais il rappelle en fait, il montre comment Platon est à l'origine de la censure. Je vous laisse sur ce suspense incroyable jusqu'à 14h30. Mais l'articulation en fait, du bien et du beau. Ben, c'est Platon aussi, et c'est vrai que je pense pas que ça soit si... Quand on dit que c'est moche, enfin, je pense qu'il y a l'idée, effectivement, ça nous dégoûte, enfin, je pense que les choses sont très liées de manière très archaïque.
C'est très fort comme... par rapport à ce qui a été dit ce matin aussi, moi, ça m'a, par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux images de bande dessinée, ah, c'est laid, ça, moi, c'est quelque chose, avec le peu d'expérience que j'ai avec la marionnette, que je commence à identifier et à voir revenir régulièrement par les adultes et par les enfants aussi des fois, mais je pense peut-être plus par mimétisme, de « Ah, c'est moche, oh, elles sont pas belles vos marionnettes », qui est très, alors, c'est très fréquent, et très fréquemment, ça témoigne vraiment d'un malaise des spectateurs, là même pas spécialement par rapport au spectacle pour adultes, hein, je parle plus aux... Souvent les spectateurs qui sont pas habitués à la marionnette, qui du coup sont, peuvent être dérangés par ce qu'ils voient, et qui comme réaction, au lieu de dire le propos, même à la lèse, vont dire « Ah, elles sont pas belles vos marionnettes », parce qu'il y a l'idée préconçue qu'une marionnette, ça doit être mignon et joli, que ça décore aussi, et que voilà, du coup il y a un... Enfin, moi j'ai mis du temps à décrypter ces retours-là en fait.
Je pense qu'il y a une dimension qui est très rapidement morbide dans la marionnette aussi. Enfin, on peut la faire mourir, Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a une présence de la mort, hein, je trouve, qui est forte dans les marionnettes. Hein. Non, j'ai toute seule apparemment. Hein. Non, mais qui est évidente en fait.
Il y a beaucoup de gens qui...
Ouais. Et je pense qu'effectivement, dans le, notamment avec toutes les thématiques qui maintenant qu'on ose aborder dans le théâtre jeune public, la présence de la marionnette, elle apporte aussi cette dimension-là, qui peut déranger. Voilà. Ouais, non, c'est clair.
Il y a Alain qui voulait rajouter une petite chose, et après on va faire ça.
Je voulais rajouter quelque chose que j'ai oublié, c'est... en ce qui concerne le répertoire, lorsque j'ai commencé mes spectacles dans les écoles, il y avait un genre qui était très déconseillé, c'était les contes populaires de tradition orale, c'était les contes de fées, c'était les mythes. Et ça a entraîné, alors ce que je peux appeler une autocensure, c'est-à-dire que les marionnettistes ont créé des spectacles qui traitaient de pas du tout ces thèmes-là, parce qu'ils étaient censés... développer la violence, l'ésotérisme, l'amour, enfin toutes ces formes, etc. Et donc c'était un genre de spectacle un peu interdit. Et alors c'est pour ça qu'on a vu fleurir tout un nombre de spectacles opportunistes sur les couleurs, sur l'eau, sur... Tout ça a des thèmes avec des thèmes extrêmement didactiques. Quoi. Puis en 69, il faudrait vérifier la date, il faudrait demander à ADN de vérifier la date, mais je crois que c'est en 69 qu'il y a eu un grand congrès international par l'UNIMA à Budapest, et qui a réhabilité complètement les thèmes des contes de fées, des contes de tradition orale et les grands mythes comme base essentielle de la formation de la personnalité de l'enfant. Et à partir de ce moment-là, on a eu la porte ouverte. Donc voilà, c'était aussi une raison pourquoi, dans les années entre les années 50 et 80, la dramaturgie pour les spectacles de marionnettes a été souvent très, très déficiente au point de vue qualité littéraire d'écriture. Je pense que c'est une des bonnes raisons. Voilà.
Sur ce point-là, quand vous dites c'était déconseillé, ça a été un conseil formulé officiellement et ça par qui
formulé officiellement, mais c'était extrêmement déconseillé, et surtout ce qui a finalement on était amené à être des bons cuisiniers qui savaient faire la sauce, voilà. C'est pour ça qu'à partir des années 73, j'ai abandonné les spectacles dans les établissements scolaires en particulier, parce que je me refusais à devenir que ça, savoir faire la sauce, la bonne sauce qui était adaptée au spectacle, au spectateur, soi-disant adaptée au spectateur. Moi, je suis complètement... Il n'y a pas de spectacle pour enfants et pour adultes, il n'y a pas d'écriture pour marionnettes et pour le théâtre d'acteurs, tout ça me semblait... des fantasmes, hein, donc je le dis carrément. Et donc, ça n'était pas une obligation, un interdit. La preuve, c'est que moi, j'ai monté des contes populaires de tradition orale très, très tôt, dès les années 60. Mais ce n'était pas le bon accueil, voilà. Il fallait éviter ces thèmes-là, si possible. Et je pense aussi que le marché, donc, était, puisque c'était le seul débouché valable pour les marionnettistes pendant cette période de 50 à 70, c'était donc un marché, évidemment, qui lui permettait de survivre. Et en tant que marché, c'était donc, ça nous amenait donc à une certaine autocensure pour pouvoir diffuser nos spectacles.
Moi, je pense que ça je pense quand même que, enfin, moi je m'en rends compte par exemple en travaillant avec la toute petite enfance, je parlerais plus de responsabilité que d'autocensure, hein, mais c'est des âges où, les enfants peuvent être submergés d'émotions et ne pas contrôler, on doit vraiment faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire de la même manière qu'à des adultes. Enfin, c'est... Quand tu disais que tu ne voyais pas de différence pour enfants ou pour adultes, je pense qu'il y a quand même une manière d'aborder les choses qui est spécifique aux enfants. On n'aborde pas les choses de la même façon, comme on en parlait même en littérature, enfin, à travers le non-dit, etc. Et on le ressent très fortement avec les tout-petits, hein, parce que c'est directement les larmes, les tremblements. Voilà. Une réaction qui est.
Les petits sont terrifiés par la marionnette, la marionnette n'est pas du tout.
D'ailleurs, moi, il n'y a pas de marionnette dans les même en soi-même dans l'atmosphère.
D'ailleurs, moi, j'ai un grand projet, c'est d'écrire un spectacle de marionnette
pour les fœtus. Parce que maintenant, on fait des spectacles de marionnette pour les enfants d'un an, de 6 mois, pourquoi pas pour les fœtus. Je pense que c'est un projet très commercial.
Oui, François Lazaro, c'est liminaire, enfin c'est à part de notre sujet qui est la censure, mais ça pose la question de savoir si pour des tout-petits il s'agit d'un spectacle, puisqu'il y a confusion entre réalité et spectacle.
Ça dépend comment on travaille, moi je peux parler que de ce que moi j'ai proposé, c'est plus des espaces dans lesquels le public est impliqué, c'est plus des installations, hein, avec une relation qui est très forte, avec une part de jeu, d'interaction, mais il n'y a pas vraiment de marionnettes, enfin, il y a des objets, on est plus dans un univers dans lequel on les invite, hein, mais même à l'intérieur de ces univers un peu merveilleux, hein, on voit dans les gestes, dans la façon de les regarder, dans une façon de se positionner, hein, ça manque beaucoup d'écoute à la sensibilité de tout petits enfants. C'est des moments de vie.
Je posais bien la question de savoir si on pouvait envisager un spectacle pour les enfants, voilà, c'est tout. Puisqu'il y a confusion entre réalité et fiction.
C'est un moment de vie, hein. Comme un moment de jeu, voilà, où t'as... Comme un moment de lecture, enfin voilà, je pense que ça, la question elle est la même. Dans ce cas, est-ce qu'on lit un livre à un petit, enfin, tu vois, la question elle est... Est-ce qu'on leur montre des images? Est-ce qu'il y a un corps qui peut se déplacer? Est-ce qu'ils peuvent apprécier des mouvements dansés? C'est comme, est-ce qu'on peut leur lire un livre? Enfin, pour moi c'est la même chose, hein. C'est des initiations artistiques, quoi, c'est juste des formes. Évidemment qu'il y a confusion, mais si elle est gérée... Cette confusion, ça reste pour eux avant tout un moment de vie, un moment sensible.
Est-ce que c'est pas une déviation de notre époque d'avoir fait cette tranche?
Oui.
Pour nous, par exemple, il y avait les spectacles pour maternelle, les spectacles pour primaire, les spectacles pour adolescents, etc.
Entre les enfants de 2 ans qu'on a fait en école maternelle à 6 ans, il y a des différences capitales. De même, entre les enfants du début de la maternelle et l'école primaire, il y a une grande différence, alors que la dernière année de la maternelle et les premières primaires, il n'y a pas de différence. Moi, je pense que les grands spectacles populaires du 19e siècle, c'était de 3 ans à 80 ans. C'est-à-dire, je trouve que ce découpage en tranches des publics m'a profondément agacé, m'a détourné du désir de spécifier spécialement que tel spectacle était fait pour... le jeune public, je me rappelle mes enfants à l'école primaire du 20e arrondissement, il y avait tous les mois un grand spectacle réservé de marionnettes, regardez, aux enfants des écoles primaires, au théâtre de l'Est parisien à l'époque, qui est le théâtre de la Covid. Ils s'y ennuyaient à mourir, et je les emmenais dans le même théâtre, voir Macbeth, ils étaient enchantés. Donc je suis très très sceptique sur ces tranches d'âge et ces machins.
Oui, Alain Guillemin. Je réfléchissais à deux, trois choses en entendant tout cela, en particulier sur la question des pressions, je dirais pas forcément de la censure sous la forme ouverte, mais des pressions de la façon dont on y répond, parce qu'on est bien obligé d'en tenir compte, personne ne peut en douter, et la façon dont on répond éventuellement par des formulations symboliques, voire de non-dits, en se demandant où on va dans cette direction et jusqu'à quel point on est éventuellement dans l'acceptation d'un certain nombre de choses qui sont très à la limite. Je me souviens dans les années 90-95 avoir assisté avec Maurice Titran, pédiatre, à un spectacle lourdement financé par le Conseil Général du Nord et qui était une super pub pour la CAM. Alors évidemment, on s'était motivé par le contraire. Il s'agissait, tartiné de bons sentiments, de lutter contre la drogue chez les jeunes. Mais le résultat était exactement l'inverse. Bon, voilà, une façon de voir les choses. Prenons-en d'autres, hein. Sur, je faisais parler il y a quelques années des dames qui avaient été au démarrage de la fondation du planning familial dans une ville comme Roubaix, à l'avant-garde des choses à une époque, et elles expliquaient à des jeunes que c'était pas au haut Moyen-Âge, mais dans les années 70, qu'il était encore plus ou moins interdit officiellement de révéler à une femme qu'elle possédait un utérus. Voilà, bon, hein. Pour prendre ces distances-là, ajoutons que sur la pornographie, un des plus grands documents pornographiques est quand même le manuel des confesseurs. Grandiose. Très beau. Bon, voilà. Des choses comme ça. Alors, je pense qu'une des conséquences sur des tas de questions, en particulier sur la mort, sur l'amour, c'est qu'à la limite, on peut montrer des images, tant qu'on veut. Des mots, jamais. Et je réagis de ce point de vue sur la question du non-dit. Parce que si on prend la mort, il n'y a plus d'invention verbale depuis l'après-guerre sur le terrain de la mort. Casser sa pipe, avaler son extrait de naissance, j'en passe, c'est les meilleurs. Il n'y a plus un mot. Silence. De mort. Et sur l'amour, la place entière est laissée aux saloperies. Entière. Les propos violents, ultra-machiste, violent au sens où le viol est une arme de guerre dans un certain nombre de pays, on le sait. Bon, voilà. Alors, je pense que à partir de ça, moi, j'ai fait un travail cette année avec des étudiants à Lille 3, dans des ateliers. On a fait un travail sur la mort. Ils m'ont sorti de magnifiques images, c'était très beau. C'était à peu près totalement muet. Voilà. Bon. Il y a réfléchi. On va faire l'an prochain la même chose, mais sur l'amour. Alors, est-ce que ça sera muet? Est-ce qu'on sortira les mots pour le dire de carrière? Est-ce que, enfin voilà, jusqu'où osera-t-on aller? Parce que on peut tout montrer sur ce terrain-là sans problème, mais alors le dire, silence. Voilà, donc je pense quand même que par rapport à ça, tout en tenant compte des réalités, parce qu'on est bien obligé d'en tenir compte, hein, on peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais je me demande quand même à un moment si on n'est pas un peu amené aussi, quand on peut, à se livrer à quelques provocations.
J'aurais une question pour Anne Crétois-Legrand. Justement, vous disiez, oups, par rapport à la commission de surveillance, ça portait surtout sur les images. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup surprise, parce que dans les témoignages qu'on a reçus du côté des marionnettistes et par rapport à certaines choses dont on pourra parler cet après-midi, en général, c'est beaucoup sur le texte que portent les coupes ou les remarques ou la volonté de censurer, et que beaucoup de choses passent par l'image, en tout cas pour ce qui concerne la marionnette. Donc je voulais savoir, par rapport à cette commission de surveillance, je me souviens plus le titre complet, dans ses dernières évolutions aujourd'hui, est-ce qu'elle accorde toujours autant d'importance à l'image, ou enfin quel est le rapport entre l'importance accordée au texte, à l'image, et qu'est-ce qui semble le plus dangereux?
Alors, la loi, c'est ce que j'ai étudié au départ, a été motivée en effet par la profusion d'illustrés gangsters, ce qui est appelé illustrés gangsters. Donc, ce qui posait problème, c'était les bandes dessinées, surtout les bandes dessinées, les comics qui venaient des États-Unis. En fait, il y a eu un déferlement de bandes dessinées jugées violentes après la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement en France, dans l'Europe et dans le monde entier. Et ce qui posait vraiment un gros problème, et à la commission de surveillance aussi, c'était l'image. Donc c'était la bande dessinée qui était a priori destinée à la jeunesse, qui proposait des images violentes, accusées d'avoir une mauvaise influence sur les jeunes par mimétisme. Voilà, les jeunes pouvaient, tuer quelqu'un parce qu'ils avaient vu une image violente, une image de meurtre dans une bande dessinée. Mais comme je l'ai dit, en fait, au fur et à mesure du temps, la bande dessinée a quitté peu à peu le domaine strictement de la jeunesse pour s'ouvrir, surtout dans les années 70, fin des années 60 et début des années 70, pour s'ouvrir au lectorat adulte, donc de plus en plus. Du coup, la commission de surveillance a eu de moins en moins affaire aux publications ou bandes dessinées destinées à la jeunesse, puisqu'elles étaient destinées aux adultes. Et aujourd'hui, alors... je me suis posé le problème des mangas, je me suis dit mais comment ça se fait que les mangas, j'ai aucun retour sur les mangas, il ne semble pas qu'il y ait de mangas destinés à la jeunesse qui ait eu de problèmes par rapport à cette commission. En fait, comme je l'ai dit, les mangas donc, qui viennent principalement du Japon devraient être soumis théoriquement à l'article 13, puisque ce sont des publications étrangères, en plus étrangères à l'Union Européenne, sauf que comme Bernard Joubert me l'a dit, en fait, elles ne sont pas, tout simplement, les mangas ne sont pas déposés au ministère de la Justice. Donc, du coup, ils ne sont pas déposés, donc ils ne sont pas visionnés, lus par la commission de surveillance. Pour moi, c'est peut-être pas catégorique, mais pour moi, il y a moins de problèmes d'image en ce moment. Et le problème, c'est aussi élargi au texte. Comme je l'ai dit à la fin, depuis les années 2000, le problème s'est élargi au texte, notamment aux romans pour adolescents, donc romans dénués d'images. Donc là, c'est vraiment le fond qui pose problème. Mais au départ, vraiment, la loi était motivée par la violence des images, et l'autocensure s'appliquait aux images, en fait. Donc, raboter la poitrine, ou enlever les onomatopées, les traits qui soulignent la violence, effacer les revolvers, effacer les marques de sang, etc. Les blessures.
Je voulais réagir par rapport à ce matin. Emmanuel Hebel, je me présente pour l'enregistrement. C'est pas bon, d'accord, excusez-moi. Je me disais que par rapport au jeune public, on remarque qu'il y a quand même beaucoup la question de la censure sur le côté moral, presque plus que sur le côté politique. Et c'est peut-être un des domaines où cette question de la censure morale est peut-être la plus importante. Et il me semble qu'on a là un processus d'encadrement de l'imaginaire avec l'idée de préserver une pureté qui est complètement une projection de l'adulte sur sa vision de l'enfant. Qui est censé être pur et donc il ne faut pas pervertir, et je trouvais que c'était intéressant d'aborder ça sous cet angle-là. Et moi, en tant que spectateur aussi de spectacles pour le jeune public, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que l'adulte accompagnant, vous l'avez souligné, mais il est souvent complètement perdu par rapport à ce qu'on lui présente, et souvent sa première réaction c'est comment faire pour tout de suite limiter l'imaginaire autour de ce qui est vu et entendu, parce que souvent il y a aussi une langue qui sort de la langue habituelle, on va dire, donc une langue qui va pouvoir être soumise à interprétation, et cette soumission à interprétation inquiète beaucoup l'adulte accompagnant, qui se dit il va vite falloir que je referme toutes les portes qui ont été ouvertes, parce que ça va être trop, ça peut être dangereux, ça va être trop fort. Et ça va amener des questions trop complexes ou trop... Enfin voilà, parce que du coup, ce langage reste volontairement flou, volontairement décalé, ou en tout cas ouvre des portes vers des choses qui amènent l'enfant à demander des précisions, à investir un champ de curiosité. Et voilà, moi j'avais cette impression qu'il y a souvent comme ça la volonté très forte de la part de l'adulte. Alors l'adulte accompagnant ou du médiateur, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même la récurrence dans tout ce qui a été dit de cette place de l'adulte médiateur, enfin du médiateur qui est censé introduire le public, le jeune public, à l'œuvre artistique, alors que ce soit la personne qui fait la partie éditoriale dans les revues, que ce soit une commission au niveau de l'État, mais dans le cadre du spectacle, c'est le programmateur, c'est l'enseignant. Donc il y a beaucoup de médiateurs, et chacun a un pouvoir de censure, de demande de précision, etc. Et du coup, je me disais que c'est là on a la mise en place d'une espèce de processus d'encadrement de l'œuvre, et qui va s'amuser comme ça à réduire le nombre de portes ouvertes par l'œuvre qui est présentée. En
fait, ça pose la question de l'accompagnement. En fait, effectivement, accompagner, notamment pour les enfants, accompagner un enfant au théâtre, c'est pas forcément contrôler ses émotions, ce qu'il ressent, son jugement. Enfin, je trouve que ça pose la question de l'accompagnement plus que de l'encadrement. Moi, j'aurais plus ce mot-là.
Oui, je crois que pour les historiens de l'éducation, on est passé de l'enfance d'un modèle de transmission dans lequel les générations précédentes transmettent ce qu'elles savent, la façon de vivre, etc. Et ce que disent les sociologues comme François de Saint-Guy, à une relation plus égalitaire où l'adulte n'est pas là pour apprendre à l'enfant comment vivre, mais pour lui apprendre à comment devenir lui-même. Donc tout en restant plein de sollicitude, etc., et d'accompagnement, n'empêche qu'il n'est plus là pour lui donner des leçons, mais pour essayer de faire en sorte qu'il se trouve lui-même. Et c'est dur pour l'adulte, à mon avis, d'abandonner ce rôle, de ne pas avoir de réponse, et de dire à l'enfant, bah, moi j'ai vu ça, et toi, t'as vu quoi? Et le rôle du médiateur, effectivement, c'est de faire de la médiation, pas de donner des leçons. Enfin, il me semble que c'est ce qui est devenu.
Marie-Tony Reyes et la compagnie Lilliput. J'ai vu dans les spectacles qu'on a joué devant un jeune public avec les parents, pas seulement attendre que le spectacle finisse pour essayer d'encadrer l'enfant par rapport à la façon d'être des parents, mais pendant le spectacle, il s'assoit bien à côté, il y en a beaucoup comme ça, et à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils essayent de donner déjà sa propre cuisine par rapport à ce qu'ils voient avant que l'enfant puisse digérer quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment une manipulation que font souvent les parents, hein. C'est pas un cas rare. C'est malheureusement une éducation que peut-être il faudrait donner aux parents avant de se diriger aux enfants.
Du coup, ça me dit pour rebondir aux deux questions avant. Et je voulais commencer par ça tout à l'heure, c'était aussi dire, quand Julie m'a demandé de venir parler avec tout le monde là, de la censure, la première chose que j'avais envie quand même de dire, c'est que ça m'a vraiment surpris, parce que l'intervention d'Alain était intéressante là-dessus, pour voir quand même l'évolution, et aussi un gros changement par rapport à ce que disait Alain, c'est le fait qu'on n'a plus nécessairement besoin d'aller dans les écoles pour toucher le public enfant. On peut encore y aller, ça arrive encore, mais moi en tout cas ça m'est très peu arrivé. Et du coup, par rapport à cette question de l'encadrement des adultes et de la censure exercée par les adultes par rapport aux enfants, il y a quand même cette grosse différence maintenant, c'est qu'il y a tous ces professionnels qui proposent des choses pour les enfants et qui ont eux un regard peut-être plus éclairé, plus ouvert que peut-être certains enseignants, peut-être moins les outils aussi pour pouvoir mettre ça en place. Ça, je pense que c'est une grosse différence quand même. C'est que du coup, j'ai quand même l'impression, en ayant joué des spectacles pour les enfants, même pour les tout-petits, que c'est bien d'avoir ces gens-là qui nous font venir, qui n'ont pas peur de proposer à tout-petits un spectacle qui raconte la mort de l'arrière-grand-père. Ça ne les choque pas si ce spectacle est bien fait, si c'est bien accompagné. Voilà. Par contre, souvent, en effet, c'est les adultes, quoi, qui font, comme vous dites, la transcription en direct, qui parlent par-dessus pendant qu'on joue,
qui explique aux enfants ce qui est autre chose que ce qu'ils devraient comprendre pour pas qu'ils comprennent. Ça arrive en effet très souvent.
J'aurais une question, je te passe après Edith. Mais d'ailleurs, c'est une question qui, je pense, s'adresse à vous. Il y a des psychologues et des psychanalystes dans la salle. On a parlé de distanciation par rapport à la marionnette. Moi, j'ai déjà assisté à des phénomènes d'identification massive à la marionnette. Et en fait, je ne sais pas si le dialogisme, c'est identification-distanciation ou si c'est en fait une forme de croyance. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir assisté à des phénomènes de croyance en la vie de la créature qu'ils ont en face d'eux, qui expliquerait aussi la peur qu'ils ont effectivement. Enfin, j'ai déjà vu des enfants qui rient, adhèrent à un spectacle ou qui le regardent avec les marionnettes sur le plateau. Par contre, dès qu'on leur propose d'approcher, c'est la terreur absolue. Et je voulais savoir ce qui se passe, en fait, dans leur tête.
Et je ne vais pas répondre à Raphaël. Oui, donc je m'appelle Edith Lombardi, je suis psychologue et par ailleurs j'aime énormément dire des contes aux enfants et aux adultes et à qui veut bien m'écouter. Et puisqu'on parle de l'enfance, j'aime dire des contes merveilleux aux enfants. Et je ne parlerai pas d'autocensure me concernant, mais d'une grande vigilance et d'un grand sentiment de responsabilité. Et qu'est-ce qui me meut quand je choisis un conte merveilleux? Et qu'est-ce qui va me motiver dans ma façon de le donner à ce moment-là, à ces enfants-là? Ça va être ce sentiment de responsabilité. Le contenu du conte, on les connaît tous. Ça va être la mort, ça va être l'abandon, ça va être des vécus de grande solitude, ça va être des épreuves effectivement très graves. Mais qu'est-ce qui fait que tel conte va me donner envie de le dire à tel enfant? C'est que, à travers ces épreuves, à travers cette narration, est mobilisé le sujet, l'émergence du sujet désirant, du sujet pensant, chez les enfants chez qui je m'adresse. Mon sentiment de responsabilité, et je ne parlerai pas d'autocensure, mon sentiment de responsabilité, c'est là qu'il est posé. L'émergence, l'invitation à l'émergence du sujet chez ceux à qui je m'adresse. Peu importe la gravité des épreuves, c'est pas là, c'est pas ça qui fait le problème. C'est est-ce que dans ma façon de dire ce conte, je vais écraser l'enfant, je vais le submerger d'émotions, je vais en quelque sorte tuer la possibilité du sujet en lui, ou est-ce que je vais permettre cette émergence? Voilà ce que j'avais envie de dire. Si quelqu'un veut répondre à Raphaël.
Bon, alors je ne vais pas répondre directement, mais peut-être un peu par... Ah oui, pardon, je me présente. Marie-Christine Debien, donc je suis psychanalyste, et je suis, alors est-ce qu'on peut dire tombée en amour, parce qu'il y a des mots qui sont trop forts de nos jours, avec les marionnettes, mais il y a bien longtemps. Alors moi je vais pas te répondre directement, Raphaël, on se connaît un petit peu, mais je voudrais donner un témoignage de parents emmenant ses enfants, mais il y a bien longtemps, parce qu'ils sont grands, voir des spectacles de marionnettes. Et alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait que les enfants, comment dire, ils trouvent quelque chose, nourrissent leur imaginaire, hein, même quand les sujets sont violents, dépend, je trouve, de la qualité du spectacle, et justement dans ce qu'ils gardent une trame symbolique, et pas simplement des effets d'image et des effets visuels. Moi, j'ai toujours vu que quand un spectacle articule bien les belles, enfin, comment dire, ce que c'est pas de la beauté comme ça plastique, mais une trame symbolique, voilà, des représentations imaginaires qui peuvent être dérangeantes, hein, mais comme peuvent l'être les paroles d'un conte, hein. Mais si c'est bien dit, voilà. Ça entraîne tout le monde, adultes et enfants, voilà, à faire, on peut dire, un petit bout de parcours d'humanisation. Et moi, j'emmenais mes enfants et j'y retrouvais toujours le même plaisir. Mais par contre, quelquefois, l'histoire n'était pas violente, mais il y avait énormément d'effets visuels, hein, beaucoup d'images dans lesquelles, alors là, qui font violence aux enfants, ils deviennent très très agités, enfin très énervés, et à ce moment-là, on dit oui, ils savent pas se tenir, ou alors, mais enfin, je voulais donner ce témoignage-là, que c'est surtout ça qui compte, et que c'est ça votre responsabilité, parce que je suis pas artiste, moi, je trouve que c'est votre responsabilité de créateur, et c'est pas de l'autocensure, en effet, c'est votre responsabilité de créateur, je voulais dire ça. Et justement, par rapport à la marionnette, qui est quand même pas n'importe quel objet, hein, voilà, qui est pas tout à fait vrai, enfin un peu vrai, un peu pas vrai, un peu morte, un peu vivante, etc. Effectivement, il n'y a pas que des processus d'identification, etc. Mais si la trame symbolique, c'est-à-dire même la danse, ça peut être symbolique, même s'il n'y a pas de parole, hein, est bien faite. Voilà, ça entraîne tout le monde, pas que dans la peur et dans la confusion, quoi. Hein, la confusion entre le réel et l'imaginaire. Voilà. Voilà.
C'est très court. C'est ça m'envoie bien, que ça, j'ai l'impression que l'émotion. Que l'émotion est difficilement acceptée maintenant, pas pour tout le monde, mais c'est pas seulement les scènes violentes ou bouleversantes de ce point de vue-là qui ne sont pas acceptées, mais les parents essayent de filtrer l'émotion aussi, qui est la base, en fait, d'un spectacle théâtral. Donc ça c'est vraiment aberrant de tout point de vue. Merci.
Non, moi je voudrais abonder dans le sens de quelque chose qui a été dit par Roquin tout à l'heure, à savoir que j'ai un peu d'agacement par rapport à ces clivages d'âge. Par rapport à, on peut peut-être pratiquement tout dire, à condition d'avoir et de maintenir une certaine qualité, mais que la qualité n'est pas perçue de la même façon par un adulte et par un enfant, et que le même spectacle peut avoir la même valeur pour l'adulte et pour l'enfant, mais qu'il sera forcément perçu différemment. Et je pense que le problème fondamental qui est posé là-dessus, fondamental, c'est le problème de la qualité de l'ensemble du spectacle. Et je pense qu'un spectacle pour enfants doit être valable aussi pour l'adulte, qui n'aura pas la même valeur, mais il doit être aussi valable pour l'adulte. Et c'est tout le problème de l'accompagnement qu'il y a derrière aussi, ça. C'est-à-dire que les explications dont l'enfant aura besoin, le soutien dont il aura besoin, va être extrêmement variable en fonction des âges, en fonction des... Donc il y a un problème à la fois de qualité, et franchement, moi je mets vraiment l'accent sur le fait que tout spectacle construit pour un enfant doit être valable pour l'adulte, de par sa qualité, et du fait que, mais forcément, l'adulte ne trouvera pas la même chose.
Je pense que la question, c'est qu'il y a également, enfin, évidemment, de toute façon, il y a des, enfin, les adultes, les enfants ne viennent pas tous seuls au théâtre, et, enfin, en tout cas, enfin, pour ma part, il y a une dimension pour l'adulte, enfin, ça doit être de qualité, il n'y a pas de souci. En fait, moi, quand je parlais de ça, c'est qu'il y a des textes, je pense à des textes de Sade, de Céline, je vais pas lire ça à un enfant de 5 ans, et pourtant, c'est intéressant pour un adulte. Donc, tout ce qui est pour les adultes, on ne peut pas le transposer aux enfants. C'était dans ce sens-là. Okay. Il y a une... bah oui, mais c'était de cet ordre-là, en fait. Quand on parle de sensibilité ou responsabilité, c'est à ce niveau-là. On ne peut pas tout dire aux enfants, on ne peut pas tout leur donner, quoi.
Il y a des choses qui... Ben, je pense qu'il y a toute
tout
une...
Tout dépend comment on le dit.
C'est vrai, mais il y a quand même toute une littérature,
vraiment,
des thématiques...
Je pense que, bon, je suis une vieille dame, donc j'ai un certain agacement à ce point de vue sur le clivage. Et je pense franchement que si un spectacle pour enfants n'est bon que pour les enfants, c'est pas un bon spectacle.
Non, mais ça, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont quand même liées au monde adulte. Il y a des thèmes, il y a des atmosphères dont les adultes ont besoin, qui les intéressent. Et je ne suis pas certaine que ça intéresse les enfants.
Là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord.
Ouais. Enfin, moi, il y a certains spectacles de danse, mais il y a une façon et tout, j'emmènerai pas mon fils, quoi.
Parce que c'est la façon d'aborder les choses qui va faire la différence. Mais je ne pense pas qu'il y ait des choses qui ne soient pas bonnes pour les enfants. Je pense qu'on peut tout aborder avec les enfants, tout dépend de la façon dont on les aborde.
Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a quand même des univers esthétiques et artistiques qui sont quand même dans le monde des adultes. Enfin, moi, je pense à des... il y a une fable, oui, j'emmènerais pas un groupe d'enfants de 5 ans voir un spectacle. Enfin, et pourtant, ou même des choses de Raphaël Osandio, enfin... C'est vraiment, enfin, c'est super que ça existe, mais c'est pas du tout pour les enfants, quoi. C'est pas du, enfin, c'est extrêmement anxiogène pour. Enfin, il me semble, je sais pas. Moi,
je sens que le débat est vraiment lancé. C'est justement maintenant que nous avons la réponse.
Il y a des choses
qui sont déjà. Le
thème qui soit pas.
Exactement. Non, on peut naturellement discuter de manière informelle.